bonjour à tous.
N'est-il pas singulier, n'est-ce pas, messieurs, que les tableaux soient toujours silencieux? Pourtant, nous pouvons donner à cette peinture, cette toile, cette image, un son.
Sur les nouveaux chemins de la connaissance, où toute cette semaine, nous nous installons au cœur du mode d'existence du philosophe Gilbert Simondon. Lundi et mardi, c'est sur ces deux thèses principales et complémentaires que nous nous arrêtions, de l'objet technique et de l'individuation, mais aujourd'hui et avant l'invention du futur demain, c'est à l'imagination que nous laissons toute la place. Et toute l'équipe des Nouveaux Chemins imagine et crée ces émissions chaque jour. Marianne Chassor, Antoine Ravon, Colomba Grossi, Lucie Tardy, David Pargamin, sans oublier bien sûr Adèle Van Rett, avec à la lecture des textes cette semaine Jean-Louis Jacopin, à la réalisation Nicolas Berger et à la prise de son aujourd'hui Thibaut Germez. Imaginaire, un avion qui décolle, c'est développer en soi-même cette progressive application de toutes les forces à l'élan, de plus en plus vite, en éprouvant l'impression qu'on libère son énergie sans réserve et en risquant le tout pour le tout, sans hésitation, ni ralentissement, ni recul, ni déviation possible, parce qu'il faut s'élever en bout de piste et franchir, à force de vitesse, les obstacles sur lesquels on se précipite. En 1965 et en 1966, Gilbert Simondon donne cours à l'Institut de psychologie de la Sorbonne. Ses thèmes, l'imagination et l'invention. Loin de l'imaginaire de ses contemporains, l'imagination prend un autre envol sous l'impulsion de sa pensée. À l'image de son objet technique, elle se fait prothèse entre l'homme et le monde, entre le sol et ce qui le dépasse. Au point justement peut-être de le dépasser. D'abord corporelle, motrice, indépendante, l'imagination a l'allure de l'individuation. Celle d'une jeunesse qui naît, s'enrichit et se réinvente. Une imagination qui déborde même l'homme. Mais à quoi peut bien ressembler une psychologie quand l'imagination la réinvente à ce point, quand elle n'a plus rien de l'esprit, mais qu'elle prend racine dans le corps? Eh bien, réponse aujourd'hui avec Jean-Yves Château, inspecteur général honoraire de philosophie, auteur du vocabulaire de Simondon chez Ellipse et à qui l'on doit la présentation au PUF de plusieurs textes de Simondon sur la technique, de ses cours et conférences sur la communication et l'information, et puis bien sûr de ses cours sur lesquels on va se pencher aujourd'hui sur l'imagination et l'invention. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
Les images ne sont pas aussi limpides que des concepts. Elles n'obéissent pas avec autant de souplesse à l'activité de la pensée. On ne peut les gouverner que de manière indirecte. Elles conservent une certaine opacité comme une population étrangère au sein d'un État bien organisé. Contenant en quelque mesure volonté, appétit et mouvement, elles apparaissent presque comme des organismes secondaires au sein de l'être pensant. Parasites ou adjuvantes, elles sont comme des monades secondaires, habitant à certains moments le sujet et le quittant à certains autres. Elles peuvent être, contre l'unité personnelle, un germe de dédoublement, mais elles peuvent aussi apporter la réserve de leur pouvoir et de leur savoir implicite au moment où des problèmes doivent être résolus. Par les images, la vie mentale contient quelque chose de social, car il existe des groupements stables et mouvants d'images en devenir. On pourrait supposer que ce caractère à la fois objectif et subjectif des images traduit en fait ce statut de quasi-organisme que possède l'image, habitant le sujet et se développant en lui avec une relative indépendance par rapport à l'activité unifiée et consciente. «
Jean-Yves Chateau, on vient d'entendre, interprété par Jean-Louis Jacopin, un extrait des cours de Gilbert Simondon sur l'imagination et l'invention, qui date donc, comme je l'ai dit, de 1965 et 66. Il s'agissait d'un extrait de l'introduction dans lequel Simondon distingue les images des concepts. Est-ce qu'on peut dire finalement que là, d'abord, dans un premier temps, Simondon hérite d'une distinction assez classique de l'imagination par rapport au concept et lorsqu'il en fait des éléments opaques, une population étrangère au sein d'un État bien organisé?
Oui, tout à fait. En un sens, effectivement, il prend une distinction reconnue par tout le monde, l'opposition entre l'image et la pensée est la plus générale qui soit, celle qui nous vient à tous, même si nous n'avons jamais fait ni philosophie ni psychologie. Mais en même temps, avec sa manière caractéristique, il transforme un peu tout. Et en particulier, mine de rien, dans ce texte, il manifeste à la fois une critique de ce qu'était le grand penseur, bien au-delà des spécialistes de philosophie de l'époque, c'est-à-dire Jean-Paul Sartre, dont le premier succès avait été avec ses deux travaux sur l'imagination et l'imaginaire, un peu avant la guerre, et en même temps, il fait apparaître, au fond, la solidité des thèses que Sartre brocardait avec un brin d'insolence et de rapidité de Bergson. Bergson qui était peut-être en voie de perdre beaucoup de sa notoriété à l'époque où Simondon en parle. Voilà. Alors, de quelle manière le dire? Eh bien, dire que, comme vient de lire le texte, l'image est un quasi-organisme qui est dans un être, un individu, ça semble aller contre l'idée même de Sartre qui est de dire que vraiment l'imagination ce n'est pas dans le sujet, il faut penser l'intentionnalité, le rapport intentionnel à l'objet extérieur, et Sartre en fait toute une thèse. Et en revanche, ce que dit Bergson et que dont Sartre dit c'est quasiment incompréhensible, c'est que l'image aurait une quasi-objectivité. Ça serait, dit-il strictement dans la préface de la 9e édition de Matière et Mémoire, un intermédiaire entre ce que les idéalistes, dit-il, appellent une représentation, mais un peu plus, ou ce que les réalistes appellent une chose, mais un peu moins. Et ça va être l'idée que Simondon va reprendre, sans reprendre la problématique de Bergson, mais en montrant que cette idée est peut-être plus solide du point de vue des faits, de la psychologie, que les analyses sartriennes.
Quelle est l'approche, alors quelle est la problématique de Gilbert Simondon par rapport à l'imagination? Est-ce que c'est déjà d'en faire des organismes ou quasi-organismes? Il faut d'ailleurs se demander pourquoi il dit à la fois organisme et quasi-organisme dans le même texte, Jean-Yves Chateau.
Il dit quasi-organisme par prudence, Gilbert Simondon est très prudent, et quand il s'agit de science, et la psychologie pour lui, c'est une discipline qu'il faut rendre aussi scientifique que possible, il ne faut pas s'avancer trop vite, donc c'est un organisme en un sens dans la mesure où ça se développe par soi-même, où donc c'est d'abord un état d'embryon, et dans l'imagination ça se verra, et puis ça se développe, ça devient un peu autre chose. Mais ce n'est pas un organisme au sens strict, scientifique, puisque ce n'est pas quelque chose qui se reproduit, ce n'est pas un véritable organisme, mais c'est étonnamment proche d'un organisme. Est-ce qu'on peut dire en un mot ce qui fait que il peut y avoir cette comparaison qui rapproche sans isoler, sans identifier entièrement? C'est que tout, dans toutes les théories, dans toutes les analyses de Simondon, sont une analyse de la genèse et de l'individuation. Dans la mesure où l'image est susceptible d'être analysée en termes d'individuation, de genèse, elle ressemble beaucoup à un organisme, mais tout étant génétique, tout n'est pas pour cela même simplement vital. Donc c'est presque un organisme sans l'être tout à fait.
Quelle est la genèse, l'individuation alors des images? Il semble que dans ce cours, Simondon, dans ses cours, Gilbert Simondon, décrit en fait un cycle des images. Elles naissent, elles croissent et puis elles sont renouvelées et ainsi de suite.
C'est ça qui est l'inventivité extraordinaire que manifeste Simondon pour rendre compte, par ailleurs, d'une culture. Si on ouvre l'ouvrage, on est étonné par l'étendue de la culture scientifique, de toutes les publications qui ont été faites à l'époque. C'est tout à fait remarquable. Alors, il montre que il y a un premier état de l'image qui est, dit-il, quasi embryonnaire, qui est comme un embryon. C'est l'image avant l'image, mais c'est déjà une image. C'est le mouvement avant la perception. il y a l'imagination. Donc l'imagination n'est pas seulement, comme certains croient le défendre ou le critiquer, la reproduction, la répétition de quelque chose qui a été perçu. Non, pour percevoir, il faut avoir déjà imaginé, ça va être une thèse tout à fait forte, qui contredit frontalement tout ce que Sartre pense avoir découvert d'original
et, tout ce qu'on et qui est très profond. Et tout, d'ailleurs, de manière assez classique, c'est-à-dire on pense qu'on imagine à partir de ce qu'on a déjà perçu, ou alors ça tout veut dire fait. Qu'on crée de manière, c'est-à-dire qu'on pense, on a des images qui sont complètement neuves et qui ne se rattachent à rien. Donc comment Simondon justement dépasse cette alternative-là.
Tout à fait, mais il ne la nie pas du tout. Il dit au contraire que presque toujours, quand nous imaginons, il y a du passé qui revient. Mais en même temps, presque toujours, quand nous imaginons, il y a déjà de l'avenir qui nous appelle. Et c'est ce qui permet que il puisse opérer cette presque identification tout à fait extraordinaire du mouvement et du mouvement inconscient de l'organisme qui vient de naître, avant même donc toute conscience. Sartre dit « l'imagination, c'est une conscience imageante ». Simondon répond « non, il y a de l'image avant qu'il y ait toute forme de conscience. Il suffit qu'il y ait du mouvement. Dès que le mouvement s'organise un petit peu, dès qu'il commence à trouver une certaine finalité, donc dès que le programme héréditaire du vivant est en train de s'effectuer et lui donne un tropisme, c'est-à-dire une orientation vers un certain nombre d'éléments qui vont le faire simplement vivre ou survivre. Le sein de la mer ou bien de l'oxygène pour une bactérie. Ou bien, bon, et il va y avoir un tropisme, c'est-à-dire que le mouvement à cet état-là joue quasiment le même rôle qu'une image plus tard, lorsque je suis en train de reconnaître quelque chose ou lorsque je suis en train de projeter la fabrication d'un moteur que je vais améliorer.
Concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe, selon Gilbert Simondon, dans l'homme, alors à défaut d'être dans son intellect, sa conscience, son esprit, ce qui se passe dans l'homme au moment où en fait il imagine et il agit en même temps, il est en mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, en fait, par exemple, d'avoir une image sous forme de mouvement ?
Alors, il faut bien dire, il appelle ça une image motrice. Ce n'est pas une image qui accompagne la motricité, comme un certain nombre de psychologues ont essayé de l'analyser. En revanche, c'est une manière de penser le mouvement lui-même comme image. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une image ? Qu'est-ce qu'on retrouve à tous les degrés de l'image, y compris lorsqu'elle est beaucoup plus développée ? On retrouve, dit-il, un système qui permet d'appréhender un certain nombre d'indices, de signaux qui sont envoyés par le milieu. L'imagination, c'est fondamentalement pour lui un mode de relation de l'homme au milieu environnant. Alors, lorsque je suis en train de percevoir, il y a des images qui me permettent des images qu'il appelle intraperceptives, qui permettent de structurer, qui participent à la structuration de la perception. Lorsque je suis en train de me souvenir de quelque chose qui a existé, j'ai un certain nombre également d'éléments en moi qui me permettent non seulement de réappréhender du passé, qui n'est plus une odeur qui passe, mais également quelque chose qui pourrait advenir, une modification dans un moteur ou dans quelque chose. Et finalement, lorsque le petit animal, la bactérie, ou bien l'homme, le petit homme, vient de naître, a juste un tout petit peu de mouvement. Je dis du mouvement simplement pour aller vers le sein. Et encore, il faut qu'on le guide. Beaucoup de petits animaux ont besoin d'être guidés par la mère pour simplement trouver le moyen d'alimentation. Bon. À ce moment-là, si la rencontre se fait, dont il souligne qu'elle est largement due au hasard des deux côtés, hasard du milieu environnement, il faut que la maman ne soit pas morte, il faut que la maman soit en état d'allaiter, et il faut que le petit soit là et ait un certain nombre de conditions qui fassent qu'il est capable de téter, sinon ça ne marchera pas. Donc il y a du hasard des deux côtés, mais lorsque le hasard fait que le mouvement finit par se régulariser, le plaisir obtenu, la satisfaction du besoin obtenu fait que le petit continue à exister et se focalise de plus en plus là-dessus, eh bien, le mouvement, qui dans un premier temps n'est pas instinctif, n'est pas instinctuel, ne suppose aucune finalité, c'est caractéristique de la position de Simondon, ce mouvement-là constitue une manière d'aller vers ces signaux et d'identifier progressivement ces signaux. Deuxième moment de l'imagination, ça va être justement le moment où le contact dans la présence du milieu va exister. Simondon appelle image a priori le mouvement. C'est avant même ce dont il est l'image, mais c'est ça, une image est toujours image de quelque chose d'autre que soi-même. Ensuite, lorsque le milieu commence à exister de manière un peu consistante, un peu objective, au moins pour l'objectivité de la perception, à ce moment-là, il appelle ça une image a presenti, hein, dit-il par parallélisme avec a priori, c'est-à-dire une image au présent, une image de ce qui est là, mais cette image, elle vient donc de ces mouvements précédents et de l'accumulation de l'expérience. Et puis ensuite, il y a la possibilité, à partir du moment où l'objectivité a été constituée, il y a la possibilité de la mémoire, de la répétition, de la reproduction, mais qui ne va jamais être seulement, dit-il, reproductrice, jamais simplement un pur souvenir. Il y aura toujours une amélioration. Je vais améliorer, perfectionner l'image que j'ai de la chose que quand même je commence à percevoir. Et au bout d'un moment, il y a la constitution, dit-il, d'une série de symboles, c'est-à-dire de représentations dans l'esprit de ce dont il a fait l'expérience. Lorsque ce système de symboles finit par s'organiser lui-même, cette fois-ci non pas simplement par un contact avec le milieu extérieur, mais par une formalisation intérieure, par l'auto-équilibrage des diverses notions, etc., tout ce que on pourrait appeler la logique en un sens extrêmement général du terme, c'est-à-dire l'organisation de la pensée, à ce moment-là, il va être capable, dit-il, de faire un analogone, d'avoir en lui un analogone du monde qui va lui permettre, et c'est ça qui est décisif dans sa philosophie, c'est une grande différence avec Sartre, de penser non seulement de créer, c'est-à-dire de faire advenir des choses nouvelles, plus ou moins intéressantes, mais de créer des objets techniques. L'objet technique, qu'est-ce qui fait que c'est la pierre de touche? L'invention technique, qu'est-ce qui fait que c'est la pierre de touche de sa théorie de l'imagination? C'est que pour inventer véritablement quelque chose de technique, il faut être capable de penser par avance la solution d'un problème qui s'est posé. Il donne l'exemple, pour prendre l'exemple le plus simple qui soit, je ne prendrai pas l'exemple d'un moteur, la clé de voûte. La clé de voûte, c'est un exemple paradigmatique pour lui parce que une voûte, c'est quelque chose qu'on ne réussit pas à réaliser à petite étape, par essai et par erreur, ou ça tient ou ça ne tient pas. Il faut avoir l'idée de la clé de voûte pour la clé de voûte tienne. Il faut que le problème, dit-il, soit résolu d'abord. Il faut supposer le problème résolu. Alors voilà le dernier étape, donc l'invention qui réalise une réalité dans l'extérieur, nouveau cycle de l'image, et voilà la vie de l'image, les quatre étapes en quelque sorte de l'image, dont l'invention d'un objet extérieur est l'étape finale.
Je vous propose qu'on suive encore un petit peu la vie de l'image avant d'arriver à la question de l'invention. La conscience imageante peut être dite représentative en ce sens qu'elle va chercher son objet sur le terrain de la perception et qu'elle vise les éléments sensibles qui le constituent. D'autre part, elle est spontanée et créatrice. Elle soutient, maintient par une création continuée les qualités sensibles de son objet. Dans la perception, l'élément proprement représentatif correspond à une passivité de la conscience. Dans l'image, cet élément, en ce qu'il a de premier et d'incommunicable, est le produit d'une activité consciente et traversé de part en part d'un courant de volonté créatrice. Il s'ensuit nécessairement que l'objet en image n'est jamais rien de plus que la conscience qu'on en a.
Comme un vent qui s'enfle par une progression régulière, j'entendis avec joie une automobile sous la fenêtre. Je sentis son odeur de pétrole. Elle peut sembler regrettable aux délicats, qui sont toujours des matérialistes et à qui elle gâte la campagne. Mais pour moi, de même qu'un arôme déplaisant en soi peut-être, de naphtaline et de vétiver, m'eût exalté en me rendant la pureté bleue de la mer le jour de mon arrivée à Balbec, cette odeur de pétrole, qui, avec la fumée qui s'échappait de la machine, s'était tant de fois évanouie dans le pâle azur, par ces jours brûlants où j'allais de Saint-Jean-de-la-Hèze à Gourville, comme elle m'avait suivi dans mes promenades, pendant ces après-midi d'été pendant qu'Albertine était à peindre. Elle faisait fleurir maintenant de chaque côté de moi, bien que je fusse dans ma chambre obscure. Les bleuets, les coquelicots et les trèfles incarnats.
Jean-Yves Chateau, on vient d'entendre un magnifique extrait de la prisonnière de Proust, donc à la recherche du temps perdu de Marcel Proust, interprété par André Dussolier. Dans cet extrait, le narrateur raconte comment une odeur de pétrole va éveiller en lui un certain nombre d'images. Ce sont des images souvenirs. Gilbert Simondon en parle, évoque cet exemple dans ses cours sur l'imagination et l'invention. Et puis juste avant, j'ai lu un extrait de l'imaginaire de Sartre, auquel s'attaque, on va dire, Gilbert Simondon. Il l'attaque d'emblée, dès les premières pages de son cours. Qu'il s'agisse, il faut faire des distinctions entre Proust et Sartre, mais néanmoins, ces deux extraits montrent que l'imagination, de manière classique, se situe toujours sur le terrain de la perception, et puis surtout sur le terrain d'une perception qui est relative à un sujet. C'est toujours un sujet qui ressent, qui sent, et qui fait part de qui va imaginer à la suite de cette perception. Or, chez Gilbert Simondon, on a l'impression que l'imagination est indépendante du sujet. Jean-Yves Chateau.
Tout à fait, tout à fait. Les deux textes que vous venez de faire lire, sont tout à fait intéressants et caractéristiques et permettent de bien comprendre la position de Simondon, même si elle ne la recouvre pas entièrement, parce que précisément, il se réfère à ce que vous venez de désigner, c'est-à-dire la perception. Mais voilà, et le problème de la perception n'est qu'un problème particulier de l'imagination pour Simondon. Ce qui, quand même, notons-le précisément, est une manière de s'opposer frontalement à Sartre, pour qui, soit on imagine, soit on perçoit, mais on peut pas faire les deux. Il le dit dès la première ligne de l'imaginaire, ce sont deux modes du rapport au monde qui sont exclusifs l'un de l'autre. Bon, alors, le texte de Sartre, il est caractéristique de ce que Simondon critique dès son introduction, critiquant d'ailleurs le mot imagination, disant que le mot imagination est intéressant d'une part, mais qu'il risque d'induire en erreur. Le mot imagination renvoie à la psychologie des facultés, à une faculté d'imagination. Cependant, il est précieux, parce qu'il suppose que les images mentales procèdent d'un certain pouvoir, expriment une activité. Une activité, il dit pas encore laquelle, on verra, et elle n'est pas du tout ce que la psychologie de l'imagination en général fait, supposant l'existence de fonctions, etc. Mais il peut induire aussi en erreur ce terme, car il rattache les images, c'est exactement ce que vous venez de lire chez Sartre, au sujet qui les produit, tend à exclure l'hypothèse d'une extériorité primitive des images par rapport au sujet. C'est une attitude courante chez les penseurs contemporains pour qui l'image renvoie à une conscience imageante, entre guillemets, selon l'expression de Sartre. Donc vous voyez, c'est exactement ce que vous venez de dire. L'image pour Sartre, c'est quelque chose, c'est une conscience. D'abord, il faut une conscience. Là où il n'y a pas de conscience, il ne peut pas y avoir d'image pour Sartre. Et c'est une conscience dont dépend entièrement l'image. C'est ce à quoi s'oppose Simondon. C'est ce qui donne le sens, d'une certaine manière, le sens premier du premier texte que vous avez lu. Les images ne sont pas aussi limpides que les concepts. Ils ne sont pas aussi limpides et ils ne sont pas très limpides. Ils ne sont pas entièrement non plus opaques, mais ils ont une certaine opacité. C'est un thème que critique Sartre avec l'adjectif opaque, qui se trouve déjà chez Bergson au contraire. Pour Bergson, il y a une certaine opacité. J'ai l'opacité du réel, puisque la thèse de Bergson, dans ce qu'elle a de caractéristique, c'est de relier d'aussi près que possible le réel et l'image, même si l'image et le réel ne sont pas tout à fait la même chose. Alors, le texte que vous avez choisi de Proust est remarquable là-dessus. Il peut paraître comme ça, pas très loin de Sartre, mais à vrai dire, non. En tout cas, à la lumière de l'analyse Simondon, pas du tout. Qu'est-ce qu'on voit apparaître dans toute l'œuvre de Proust et remarquablement dans ce texte auquel effectivement Simondon fait allusion dans le Conseil de l'imagination? Eh bien, c'est que nous ne sommes pas maîtres des images. Nous n'en faisons pas ce que nous voulons. Ça ne dépend pas de la conscience imaginante. Ce n'est pas comme un concept. D'un concept, je fais ce que je veux. Si je veux que par un point extérieur et une droite, il passe n parallèle, j'ai le droit de dire que ça sera n plus 1, n plus 2, n plus 3, etc. Les concepts, les bons concepts, en tout cas, les vrais concepts, ceux qui ne sont pas des images un petit peu comme ça intellectualisées, ce sont des choses qui dépendent d'une pensée active, d'un pur calcul. Pour calculer simplement sur des pensées, il faut du temps. Or, les images, une odeur, ça m'envahit. Un souvenir, ça m'envahit, ça me saisit, ça me prend. Je ne suis pas maître entièrement de mes images, même celles dont je crois être le maître. C'est moi qui veux y penser, oui, mais je voulais penser, et puis tout à coup, je suis emporté. Donc, alors, je suis pas emporté comme lorsque une puissance physique me contraint à faire ceci ou cela. Enfin, pas toujours, quelquefois, oui. Dans la pathologie de l'hallucination, de la contrainte violente, ça peut exister. Mais dans beaucoup de cas, je suis dans un intermédiaire entre quelque chose d'objectif et de subjectif. C'est quelque chose que je peux modifier un petit peu, mais pas du tout, comme le dit Sartre. Il y a une sorte de manière d'inventer la réalité au lieu de la décrire. Merleau-Ponty a dit que la psychologie devait d'abord ne pas s'opposer à ce que dit la science. C'est le minimum des choses. Ensuite, on donne des interprétations. Et là, la manière dont les images s'imposent à nous souvent, c'est important. Tout Proust, d'une certaine manière, c'est une méditation, Proust qui était très philosophe, comme vous savez, c'est une longue méditation sous forme de roman, seule manière de faire apparaître sans doute cette variation sur tous les cas de figure, de manière donc autre que la démonstration des philosophes habituels, mais sur la manière dont l'image... On peut en faire ce qu'on veut, la preuve, lui, mais il faut faire un roman aussi long, un roman qui est sans arrêt plus long, pour essayer de dominer ce qui s'impose à nous, et sans arrêt, il essaie de faire apparaître la chose. Donc voilà, on est avec ces deux exemples, on voit bien une théorie extrême qui a de l'intérêt. Simondon dit que c'est très intéressant, la théorie de Sartre. Pourquoi ? Ben parce qu'il montre que le mouvement, la volonté, l'action... ont une influence sur l'image. Oui, mais pas toute l'influence, comme Sartre le voudrait. Les images, elles ont aussi une sorte d'objectivité. Alors, dans le souvenir, c'est caractéristique. Oui, mais vous voyez... Alors, le souvenir, comme vous le disiez, il se réfère à une expérience qui a existé d'abord. Si je peux me permettre, bien que ça ne soit pas Proust notre objet, mais quand même, c'est tellement intéressant. Dans Proust, il y a plusieurs cas de figure, les clochers de Martinville, etc., dans lesquels il faut une méditation, une réflexion. Proust, il écrit sur à côté du cocher, la première fois, quelques propos en voyant Martinville arriver, et puis après, il envoie au Figaro ça sous forme d'article, puis après, il en parle dans La Recherche. Bon, ça veut dire qu'il y a une méditation, une élaboration, et que rien n'est jamais pur souvenir, pure répétition de ce qui a été peut-être perçu à un moment, et même... Avec Proust, on pourrait montrer une extraordinaire illustration de ce que dit Simondon, c'est que la perception exacte de ce qu'il y a à percevoir, elle ne se réalise que dans ce que Proust appelle une réflexion, une réflexivité qui permet, dans une mémoire, voilà, de faire advenir les choses. Donc, on a véritablement deux bonnes images, deux bonnes idées, plutôt, de ce que c'est que l'imagination dans ces deux interprétations de Sartre et de Proust.
La faculté imaginative chez Simondon permet-elle, comprend-elle en elle, justement, contient-elle une manière de pouvoir ressaisir les images, c'est-à-dire de pouvoir les réfléchir, ou est-ce que l'imagination est un pouvoir irrationnel sur lequel le sujet n'a pas la main, qui, comme on l'a entendu dans le tout premier texte de Simondon, est un germe de dédoublement et contre l'unité personnelle finalement. Est-ce que l'imagination permet chez Simondon quand même de restituer une sorte d'unité du sujet, parce que l'imagination va quand même s'articuler avec la pensée et contenir en elle une forme de réflexivité.
Oui, c'est une question importante parce qu'elle mérite qu'on réponde avec délicatesse, puisqu'il fait une théorie dans le prolongement... des thèses de Bergson, mais dans une autre perspective, hein, problématique. Donc, il ne faut pas penser qu'il continue simplement les idées bergsoniennes. Dans une perspective qui consiste à se demander ce que c'est au juste que l'imagination. Il y a une certaine liberté, une certaine activité possible, une certaine maîtrise possible des images, mais pas grande, inégalement grande. Souvent, on y succombe, oui, mais pas toujours. C'est-à-dire que c'est justement le lieu d'une activité, d'une manière de se débattre avec, d'une certaine manière, les images. J'ai un dialogue avec les images. Il y a des images que je veux refouler, et puis je n'y arrive pas, puis il y en a d'autres, je réussis. Et quelquefois, il faut que j'aille jusqu'à ce qu'on appellera une forclusion pour ne plus en entendre parler, etc. C'est un vrai débat, et donc la vie psychique est largement animée par ça. Elle ne s'y réduit pas, dit Simondon, il le dit très précisément, il ne s'agit pas de dire que tout est image, mais que quasiment tous les moments de l'activité y compris l'activité motrice la plus inconsciente, y compris toutes les activités de constitution de l'objectivité et de la perception, y compris les activités de la mémorisation, y compris les activités de constitution d'un système symbolique qui permette de représenter de manière adéquate et scientifique et techno-scientifiquement le monde, et l'activité de création d'un objet technique. Tout cela est travaillé par de l'imagination. Donc, d'une certaine manière, vous avez raison. Et d'ailleurs, il le dit, l'imagination, c'est un des reproches qu'il fait dans ce tout premier paragraphe qu'on a un peu lu là tout à l'heure contre Sartre. L'imagination, c'est bien... l'idée d'imagination est une bonne idée dans la mesure où elle donne l'idée que les images dépendent un peu, d'une certaine manière, d'un pouvoir. Mais un pouvoir qui n'est pas simplement de les créer, mais de les comprendre. Il s'agit de découvrir le sens des images. Et si vous me permettez, je prends l'occasion pour faire apparaître que si on veut une théorie complète de l'imagination chez Simondon, il faut aller regarder des choses que nous avons publiées là tout récemment avec Nathalie Simondon dans l'ouvrage sur la technique, la psychosociologie de la technicité, montre qu'il y a des images collectives, il y a des stéréotypes, il y fait allusion d'ailleurs dans les pages qui suivent là, qui sont très importants. C'est ce avec quoi nous devons toujours commencer par nous débattre. Nous naissons dans un monde d'images et nous réussissons quelquefois à nous en déprendre lorsque nous savons faire. Quelquefois nous sommes d'ailleurs trop durs avec les images, nous avons peur des images, nous voudrions être un pur intellectuel qui n'a que des idées, les bonnes idées. Ce n'est pas facile et ça c'est peut-être une image d'ailleurs encore. Donc il faut comprendre le sens des images individuellement, mais également de manière psychosociale, collective.
Well, I have a picture in color of you, and it's there in my room to remind me of you.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez Les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Il est 10h32 et pour ce troisième temps de notre semaine spéciale Gilbert Simondon, j'ai le plaisir de parler de l'imagination avec Jean-Yves Château, inspecteur général honoraire de philosophie, auteur du vocabulaire de Simondon chez Ellipse et puis à qui l'on doit la présentation au PUF de plusieurs textes de Simondon sur la technique, de ses cours et conférences sur la communication et l'information et puis bien sûr de ses cours sur l'imagination et l'invention dont nous parlons aujourd'hui.
Beaucoup ont, comme ils disent, dans leur mémoire l'image du Panthéon, et la font aisément paraître à ce qu'il leur semble. Je leur demande alors de bien vouloir compter les colonnes qui portent le fronton. Or, non seulement ils ne peuvent les compter, mais ils ne peuvent même pas l'essayer. Or, cette opération est la plus simple du monde, dès qu'ils ont le Panthéon réel devant les yeux. Que voient-ils donc lorsqu'ils imaginent le Panthéon? Voient-ils quelque chose? Pour moi, quand je me pose à moi-même cette question, je ne puis dire que je ne vois rien qui ressemble au Panthéon. Je forme, il me semble, l'image d'une colonne, d'un chapiteau, d'un pan de mur, mais comme je ne puis nullement fixer ces images, comme au contraire le regard direct, si l'on peut dire, me remet aussitôt en présence des objets que j'ai devant les yeux, je ne puis rien dire de ces images, sinon qu'il me semble que je les ai un instant aperçues. Mais comme il ne manque pas autour de moi de reflets, d'ombres, de contours indéterminés que je perçois du coin de l'œil et sans en penser rien, il se peut bien que je prenne, du souvenir de ce chaos d'un moment, l'illusion d'avoir évoqué le temps d'un éclair les parties du monument absent qu'en moi-même je nomme. Là-dessus, je demande seulement que l'on se défie de soi-même et que l'on ne décrive point par le discours au-delà de ce qu'on a vu.
Plongés dans le noir le plus total, les candidats devront, juste avec le goût et le toucher, décrypter et reproduire à l'identique une recette réalisée pour l'occasion.
Il y a du poisson.
J'analyse un peu l'assiette, comment c'est construit à l'intérieur. Puis là, je commence à toucher les trucs. Alors, au toucher, impossible de deviner. Donc là, du coup, je commence à goûter.
C'est pas du poisson. Du homard ou un coquillage.
Elle est pas loin, Julia Stried. C'est de la langoustine.
Au lion, c'est iodé, hein.
C'est la plante à huître, là.
Elle a encore raison, Joey Astrid. Par contre, le petit breton, il ne reconnaît pas trop les produits de sa région.
J'ai rien qui me vient à la tête. J'ai l'impression de ne plus connaître aucun produit.
C'est la sauce qui est dedans. Moi, j'ai un beurre blanc citronné. On sort ?
Il faut maintenant qu'ils expliquent à leurs coéquipiers ce qu'ils ont compris de la recette d'Olivier Belin pour pouvoir la reproduire au plus près.
Ok, alors.
L'élément principal du plat, c'est la langoustine.
La langoustine, ok.
Mm-hmm. Rôti, ça c'est sûr.
Rôti, c'est sûr.
C'est très iodé.
C'est très iodé.
C'est pour ça qu'on sait pas.
Déjà, tu la sens, l'iode.
Ça, sûr.
On est à que tu sens l'assiette, tu sens l'iode.
Ça, sûr, elle y est.
Alors là, j'ai lancé un beurre blanc, donc une réduction échalote, citron. Donc on tape dedans et on va essayer de recréer au mieux possible ce qu'il y a dans cette boîte cauchemardesque, j'ai envie de dire.
Jean-Yves Château, est-ce que vous connaissez cette émission Top Chef ?
Oui, très vaguement. Alors, je n'écoute pas régulièrement, mais je vois ce que c'est, oui.
Donc je vous expliquais ce qu'on a entendu. C'est donc une émission de télé-réalité culinaire et dans laquelle des candidats à une étape du jeu sont soumis à une épreuve dans le noir. En fait, ils doivent reconnaître par le toucher, le goût, l'odeur, le plat qu'ils avaient sous les yeux et doivent recréer en fait le plat sans l'avoir vu. Et cela semble faire écho au texte d'Alain qu'on a entendu interprété par Jean-Louis Jacopin, qui est tiré de son système des Beaux-Arts de 1920, dans lequel Alain nous dit « Quand j'essaye de me souvenir du Panthéon, je ne vois rien. » Il est comme les candidats de Top Chef, il ne voit rien, il est dans le noir. Est-ce qu'avec Simondon, il y a cette dimension de l'imagination qui permet, qui est beaucoup plus précise que ça et qui a une dimension non seulement détaillée, mais aussi qui permet de recréer quelque chose ?
Oui, tout à fait. C'est intéressant, effectivement, de se confronter à cette petite épreuve. Écoutez, il me semble que si on prend en compte l'ensemble de la théorie de Simondon, pour essayer d'interpréter ce genre d'épreuve, de mise à l'épreuve, qui est très intéressante, hein, des privations sensorielles partielles et tout, on voit apparaître, évidemment, enfin, on voit apparaître quelque chose que souligne très fortement Simondon, mais qui consonne tout à fait avec, en plus, Proust, que vous avez lu tout à l'heure, qui est le caractère, la dimension affective de la mémoire et de l'imagination qui doit se souvenir. Le caractère sensoriel premier, le caractère émotivo-sensoriel est très important. Il y a l'émotion, la sensorialité qui sont souvent négligées lorsqu'on essaie de faire apprendre une leçon, de faire apprendre quelque chose. Hein, les professeurs le savent. Et puis, il y a un autre élément qui est souligné également dans la théorie générale de Simondon, qui est l'importance donc du mouvement depuis l'origine. Tout le monde sait qu'on se souvient mieux de quelque chose qu'on a eu à faire, à réaliser. Lorsque je conduis ma voiture, je me souviens mieux, en général, d'un parcours que si je suis passager, ou si je suis à l'avant, que si je suis à l'arrière, des choses comme ça. Bon, ce sont des choses que les psychologues connaissent. Les théories, disons, pré-psychologiques, enfin, que les philosophes comme Alain, comme Sartre, enfin, ont fait de l'imagination, se caractérisent souvent, quand on les relit maintenant, par le fait que c'est un certain nombre d'observations personnelles, de sentiments, quelquefois tout à fait intéressants, intelligents, mais qui ne prennent pas la totalité des éléments. Alors, Simondon, d'une certaine manière, analyserait sans doute ce petite expérience de la sorte, en montrant qu'effectivement, l'odeur d'iode pour un breton, etc. Il peut y avoir des éléments qui tout à fait sont parlants, plus ou moins, et ça c'est très important. Alors le texte d'Alain. En revanche, je dis Sartre parce que précisément, vous savez que Sartre a été l'élève d'Alain en Cagne, et que sur l'imagination, il reprend cette idée-là, il a été visiblement très influencé. L'idée de Sartre, c'est que l'imagination, l'imaginaire, c'est un néant, c'est un irréel, c'est un déréel. Même même l'œuvre d'art réalisée, hein, c'est la conclusion, curieusement, c'est extraordinaire, ça, c'est un irréel, dit l'œuvre d'art. Alors, ça, c'est la leçon du Panthéon, si j'ose dire, c'est la leçon du Panthéon analysée par Alain. Alors, il y a des choses de vraies, naturellement, là-dedans. Et Simondon, page 111 hein, de l'ouvrage, reprend justement cela, mais disant que ça ne résiste pas, cette analyse, malgré son intérêt, devant l'ensemble des études plus fines que l'on a pu réaliser. Il dit « L'existence d'un centre eidétique dans l'image souvenir se heurte à un argument souvent présenté depuis classique, celui de l'impossibilité de l'énumération des éléments d'un objet, en particulier si on demande combien on voit de colonnes au Panthéon, en imagination, on n'y arrive pas. » Alors, il dit, ça, c'est nullement concluant parce que, alors, c'est là que...
Ça n'est pas un argument valable, en fait, le fait de ne pas pouvoir énumérer le nombre de colonnes...
C'est-à-dire que, sans doute, tout le monde sait, lorsque j'imagine le Panthéon ou lorsque j'imagine n'importe quoi, si je ferme les yeux et que je vous imagine, alors que je viens de vous voir là à l'instant, c'est pas comme si j'ouvre les yeux.
Il y a de fait une opacité des images.
Il y a une présence... moindre, d'une autre nature, en tout cas, d'une autre nature. Si je ferme les yeux, je peux avoir présent en moi peut-être des souvenirs liés au Panthéon, des rencontres que j'ai faites devant le Panthéon, une visite que j'ai faite, que je ne peux pas avoir si je suis devant les colonnes du Panthéon. Donc, savoir si c'est plus présent ou pas, une phénoménologie trop rapide risque de perturber les choses. Mais, ce n'est évidemment pas la même chose, personne le nie. Et en particulier, si je n'ai pas observé un peu longuement le Panthéon, si ce n'est pas lié justement à des mouvements, si je n'ai pas circulé dans le Panthéon, rôle du mouvement, si ce n'est pas lié à des éléments affectifs, j'allais au lycée Henri IV en Cagne, tous les jours je passais moi aussi devant le Panthéon, comme Alain. Voilà, ces éléments-là sont importants. Les mettre entre parenthèses dans une simple expérience mentale de « je ferme les yeux, est-ce que je vois le Panthéon ?» Vous qui êtes, chers élèves, il était Henri IV quand il disait ça à Alain, à ses élèves, vous êtes passé devant le Panthéon, est-ce que vous pouvez me dire combien il y a de colonnes ? Bon, c'est pas une expérience, une scientificité très claire. La preuve, et c'est l'argumentation que donne Simondon dans la fin de la page 111 et de la page d'après, c'est qu'un objet réel, donc le Panthéon, vu en situation concrète, s'il n'a pas, dit-il, des hétérogénéités locales, importantes et progressives, je ne peux pas non plus compter ces éléments. Si je suis devant, par exemple, une grille, un grillage fait de barreaux, s'il n'y a pas un barreau qui est rouillé, d'une couleur un peu différente, un peu moins haut, je n'arrive pas à compter, il y a 1, 2, 3, 4, 12, 15, 20 barreaux. Donc, même devant le réel, lorsqu'il n'y a pas des éléments qui permettent de s'accrocher pour compter, je n'arrive pas à compter. Ce n'est donc pas simplement, dit-il, un problème d'image. Et il dit quelque chose, voilà, moi je suis lourd à côté de la manière légère qu'il a de dire, mais page 112, ils disent « Les chercheurs de la deuxième moitié du 19e siècle ont été sensibles aux différences individuelles en matière de vivacité et de précision des images souvenirs. » En psychologie, il faut jamais dire des choses générales, universelles pour tout le monde. La psychologie, c'est la manière dont nous sommes différents les uns. Nous avons des capacité de nous représenter des images en l'absence des objets, qui ne sont pas toutes les mêmes, avec des vivacités différentes. Vous savez qu'il y a des gens qui rêvent en noir et blanc, d'autres en couleur. Les images, on ne peut pas absolument tirer leur nature simplement d'une simple expérience.
L'invention est occasion de découverte en matière technique, car les propriétés de l'objet dépassent l'attente. Il serait partiellement faux de dire que l'invention est faite pour atteindre un but, réaliser un effet entièrement prévisible d'avance. L'invention est réalisée à l'occasion d'un problème. Mais les effets d'une invention dépassent la résolution du problème grâce à la surabondance d'efficacité de l'objet créé quand il est réellement inventé et ne constitue pas seulement une organisation limitée et consciente de moyens en vue d'une fin parfaitement connue avant la réalisation. Il y a dans la véritable invention un saut, un pouvoir amplifiant qui dépasse la simple finalité et la recherche limitée d'une adaptation. Si l'invention était seulement l'organisation d'un donné, sans création d'un objet, cette incorporation à l'univers des choses productibles d'une surabondance d'être n'aurait pas lieu, car l'organisation se limiterait à la résolution du problème. Mais dès qu'apparaît un objet séparé, les contraintes de cet objet impliquent un long détour, une mesure plus large, qui réalise une incorporation de la réalité. L'objet créé, pour être complètement organisé, doit être plus complexe et plus riche que ne le suppose le projet strict de résolution du problème. Il possède alors des propriétés nouvelles qui lui permettent de résoudre par surabondance d'être d'autres problèmes.
Jean-Yves Chateau, on vient d'entendre, interprété par Jean-Louis Jacopin, un extrait encore des cours sur l'imagination et l'invention de Gilbert Simondon. On est passé à l'invention. Quel est le lien entre l'imagination et l'invention? Vous nous avez décrit tout à l'heure le cycle des images. Mais effectivement, par rapport à ce qu'on a entendu avant sur entre l'extrait de Top Chef et le texte d'Alain, on se demande comment l'imagination aboutit à l'invention, si elle contient en elle un pouvoir de création, de reproduction ou d'invention. Et il s'agirait de faire des distinctions entre ces différentes modalités. Jean-Yves Chateau.
Oui, on touche là, redisons-le, la caractéristique la plus forte, la plus profonde, la plus intéressante de la théorie de Gilbert Simondon, de l'invention véritablement de Gilbert Simondon en matière de théorie de l'invention. C'est qu'il relie l'image et l'invention. C'est d'abord une théorie de l'image avant que d'être une théorie de l'imagination. Et je le rappelais dans la préface, dans la présentation, un de ces manuscrits, un des premiers manuscrits, portait comme titre non pas imagination et invention, mais image et invention. Image mentale et invention, ce qui était une manière encore plus frontale de critiquer Sartre d'une certaine manière, de montrer qu'il y a des images mentales, même si on n'a pas l'air d'y croire beaucoup. Alors, comment est-ce qu'on passe d'une image mentale qui se développe selon ce cycle en trois moments qu'on a décrit tout à l'heure, de l'image a priori à l'image appréhensive et ensuite à l'image a posteriori, qui est en quelque sorte la manière de reprendre, mais dans lesquelles il y a toujours, disons-le, de l'anticipation, ce qu'il appelle du recrutement. Le réel n'est pas perçu fondamentalement, il est recruté. C'est le grand mot de Simondon. C'est ce qui fait que la phénoménologie de la perception, même si elle a pu être illustrée en un temps par les plus grands esprits, de Husserl jusqu'à Merleau-Ponty, au premier Merleau-Ponty, la perception, c'est pas le bout du monde. Le réel n'est pas perçu. Pour qu'il soit perçu, il faut qu'il soit constitué. Il faut donc qu'il soit d'abord recruté dans les activités. Alors, comment est-ce que...
Recruté, c'est-à-dire sélectionné, choisi?
Oui, c'est ça.
Dans un but d'utilisation de...
Selon
de...
le petit schéma qu'on simplifiait tout à l'heure dans un exemple, du petit vivant, la cellule, ou le petit animal, ou le petit homme, qui... Même s'il ne sait quasiment rien faire, hein, le petit homme est caractéristique du fait que si on le laisse, il meurt. Il sera même pas bougé, il sera même pas trouvé ni de l'eau, ni rien. Il faut même le mettre sur le sein pour qu'il risque de téter, etc. Bon, eh bien, c'est lorsque, de ces mouvements, il commence à identifier un objet premier, et puis un objet premier qui le fait survivre, qui lui donne peut-être du plaisir ou une sorte de satisfaction, et qui en tout cas fait qu'il continue et que les, en même temps que la, voilà, le cerveau continue à se développer et que les schèmes héréditaires peuvent éclore et se développer. Alors, il y a un moment où, nous disions tout à l'heure, le troisième moment, c'est le moment où l'individu a construit une sorte d'analogone du monde extérieur, c'est-à-dire une série de représentations, série de, que Simondon préfère appeler symboles, qui sont de nature extrêmement variable. Il y a des symboles extrêmement imagés, entre guillemets, au sens ordinaire du terme, mais il y en a d'autres qui sont très formalisés, qui permettent du calcul. À partir d'un certain moment, la représentation, ce qu'on peut appeler la représentation du monde, même si on pourrait critiquer cette expression, que possède l'individu, lui permet, dans certains cas, eh bien, d'aller au-delà de cette représentation, d'aller au-delà donc de l'expérience qu'il a fait du monde, et de prévoir que, à tel endroit, ça marche pas bien, voilà. Et d'imaginer, des solutions possibles. Quelquefois, il suffira de déplacer quelque chose et il suffit de rallumer un tout petit peu la lumière 2 secondes pour voir comment le plat du Top Chef était réalisé, ou bien, voilà, il suffit d'avoir des petits procédés. Ou bien, il s'agit de se dire « Ah, mais si j'avais un chariot, si j'avais quelque chose, si j'avais un moyen... » D'imaginer des moyens. Ces moyens, donc, ils sont de deux sortes. Quelquefois, Simondon insiste, c'est intéressant, pour quelqu'un qui a écrit du mode d'existence des objets techniques, il insiste sur le fait que toutes les inventions, même les inventions, ne sont pas nécessairement des créations d'objets. Il y a des méthodes, il y a des manières de faire qui peuvent être tout à fait inventives. Il y a invention lorsqu'il y a véritablement solution d'un problème, et un problème, c'est lorsqu'il y a une incompatibilité, dit-il, une sorte d'impossibilité. Alors, voilà, l'invention, qu'elle soit objectivée dans un objet, réalisée dans un objet, ou bien qu'elle soit objectale, ou pas, c'est la suite du processus d'imagination. Du processus d'imagination comme mouvement, comme perception, comme constitution d'un système de symboles. C'en est la voie. Il n'y a rien d'absolument nouveau, c'est ce qu'il dit.
En cela, il y a une différence entre l'invention et la création, et l'imagination serait plutôt du côté de l'invention qui trouve des solutions à un problème posé par le réel que du côté de la création qui serait quelque chose de faire du nouveau pour faire du nouveau ou déplacer un objet de manière gratuite.
Oui.
Il vous reste 1 minute 30 pour répondre à la distinction invention-création.
D'accord, bah elle est très importante. D'une certaine manière, oui, mais pas entièrement, car Simondon fait toujours dans le détail. D'une certaine manière, beaucoup de créations ne sont pas des inventions et sont simplement des réorganisations du réel qui d'ailleurs, cependant, peuvent résoudre des problèmes. Il suffit quelquefois de ne pas se poser le problème d'une certaine manière pour le résoudre. Mais l'invention véritable, c'est la véritable solution à un problème. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une difficulté, il faut qu'il y ait une réorganisation de la structure même du réel pour que l'on puisse parler d'invention, soit dans la méthode d'action, soit dans la réalisation d'objets. Mais les objets, dit-il à la fin, ne sont les objets inventés, le sont comme les systèmes de symboles sont élargis, comme les perceptions sont sans arrêt améliorées, comme les activités motrices premières qui sont déjà des images, sont des images en voie de recrutement de la réalité.
La pince à linge fut inventée en 1887, 4 et 3, par une mère Jérémie Victor Hobdebeck, 5 et 2 fils de son père et de sa mère, je veux son oncle et de sa tante et petit-fils de son grand-père, frère de sa sœur et frère de l'Éva marchand de beurre.
La belle histoire. Déjà lorsqu'il était enfant, il montrait à tous les passants son curieux esprit compétent. Il inventait des appareils pour épépiner les groseilles, des muselières pour les fourmis. Et bien qu'il fût encore petit, c'était un mec Hobdebeck.
C'était un mec, un drôle de mec, un fameux mec, et de Lubeck jusqu'à la mec, il n'y avait qu'un si chouette mec, Jérémie Vic.
Merci beaucoup à vous, Jean-Yves Château. On se quitte sur l'invention de la pince à linge par Francis Blanche. Alors, je rappelle que l'on vous doit le vocabulaire de Gilbert Simondon. On le trouve aux éditions Ellipse. On vous doit aussi la présentation des textes de Simondon sur la technique, la présentation de ses cours et conférences, communication et information. Et puis, comme on en a parlé aujourd'hui, évidemment, la présentation de ses cours sur imagination et invention. Donc, ses cours de 1965 et 66. Et tout cela, c'est disponible au PUF. Et quant à nous, je vous donne rendez-vous demain pour la fin de notre semaine consacrée à Gilbert Simondon. Et demain, c'est du bon usage de sa pensée que nous parlerons avec Vincent Bontemps, du bon usage de sa pensée ou de la manière dont sa pensée trouve des applications aujourd'hui. Et quant à vous, pour réécouter cette émission, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez non seulement l'écouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster et y trouver toutes les références bibliographiques et musicales du jour. Et puis rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins, où toute l'équipe met en ligne l'émission du jour.